Radio Okapi.
Deux heures à Kinshasa, le journal Jocelyne Moussao.
Participation des députés aux plénières. Les absents à plus de 60% des plénières d'une session seront invalidés et remplacés par leurs suppléants conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est l'option levée par la conférence des présidents. Le bilan de l'attaque de la Codeco mardi près de Fataki Centre en Ituri est revu à la hausse. 7 nouveaux corps ont été découverts dans la brousse hier, portant à 10 le nombre des personnes tuées par ces assaillants. Le professeur Léon Odimoula est notre invité. Ses juges au Conseil d'État parlera des notions des contentieux administratifs. Bonjour à tous. Le processus d'invalidation des députés absentéistes est désormais déclenché. Si l'option a été levée lors de la plénière du lundi 18 avril à la suite de la motion incidentielle du député Paulin Odiane, la conférence des présidentes ce mercredi, hier mercredi, a balisé en fixant même les étapes de la procédure. Pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, une commission spéciale sera mise en place pour analyser le rapport général des participations individuelle de chaque député aux plénières. Ceux qui sont absents à plus de 60% des plénières d'une session seront invalidés et remplacés par leurs suppléants conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Joseph Lembi est au micro de Michel Kifindangoy.
Le deuxième point, essentiellement, il est question de parler du régime disciplinaire de l'Assemblée nationale, précisément en ce qui concerne les députés. Lors de la précédente réunion de la conférence des présidents, il s'était révélé qu'il était opportun de parler de la question de l'absentéisme des députés dans des séances plénières. Alors, les rapports ont été élaborés, nous avons compilé toutes les listes, un tableau a été établi, les absents sont connus, une commission spéciale sera constituée, dont les députés seront convoqués pour pouvoir venir justifier et présenter leurs éléments de défense. Et après, une décision sera prise pour décourager ce genre de pratiques.
D'une chambre du Parlement à une autre, le président du Sénat a échangé avec le nouvel ambassadeur de l'Italie sur les relations diplomatiques entre les deux pays. Alberto Petrangeli et Modeste Baati ont notamment échangé sur les expériences entre les deux pays, les élections, ainsi que la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Arrivé il y a une semaine en RDC, le nouvel ambassadeur de l'Italie a annoncé l'organisation dans les mois qui suivent d'un forum des affaires à Kinshasa pour permettre aux entrepreneurs italiens et RD congolais de développer les liens d'affaires pour contribuer à l'avancement économique des deux pays. Alberto Petrangeli est au micro de Michel Kifindangoy.
J'ai eu l'honneur de rencontrer le président du Sénat qui est très lié avec l'Italie. Ça a été une occasion pour un premier échange entre les possibilités de coopération entre l'Italie République démocratique du Congo, aussi à niveau des échanges intraparlementaires. C'est très important la diplomatie parlementaire pour nous et pour faire sentir la voix du peuple dans les forums internationaux. Les relations sont excellentes, aussi à la suite des rencontres que Son Excellence, les présidentes et les ministres des Affaires étrangères, Son Excellence, les présidents du Sénat ont eu en Italie l'année passée, en occasion des rencontres multilatéraux qui ont été hospités par l'Italie. On a parlé aussi de la possibilité d'avoir plus d'entreprises italiennes en RDC et donc de la possibilité d'organiser un forum des affaires entre les deux pays.
Avant de rejoindre Kinshasa, Alberto Petrangeli était en poste en Albanie. Il a été nommé en RDC à la suite du décès de son prédécesseur, Lucia Athanasio, assassiné en février 2021 à Rutshuru, à 15 km de la ville de Goma dans le Nord Kivu, alors qu'il s'y rendait pour visiter un programme scolaire. En Ituri, le bilan de l'attaque mardi soir à Diambou, à 7 km de Fataki Centre, est passé de 3 à 10 morts. 7 nouveaux corps, des personnes abattues par des hommes armés identifiés aux assaillants ARDPC, une faction de la CODECO, ont été découverts dans la brousse hier mercredi par une équipe d'activistes de droits humains et des autorités coutumières, ce qui porte à 13 le nombre des civils tués dans la même région en l'espace de 4 jours. Martial Kizabiamungu nous en parle.
Les victimes de ces massacres sont des paysans qui travaillaient dans leurs champs. Selon des sources sécuritaires, après avoir tué 3 personnes à Diambou, non loin de la localité de Katou, en secteur de Walindupiti, ces assaillants, dans leur passage, ont ouvert les feux sur un groupe de personnes qui se trouvaient aussi dans leurs champs. 7 parmi elles, dont 3 enfants, ont été touchés par balles et mortes sur les champs. Leurs corps ont été découverts dans la brousse aux petites heures de la soirée du mercredi par les activistes des droits humains et les chefs locaux. On note également 5 autres personnes grièvement blessées et une femme violée par ces malfrats, indique un rescapé. La même source ajoute que tous les corps ont été remis à leurs familles respectives et seront mis à terre ce jeudi. La société civile locale déplore l'absence des forces de sécurité dans plusieurs entités de la région de Halla, ce qui, selon elle, permet aux assaillants de la CODECO de commettre l'exercice en toute quiétude. Nous n'avons pas réussi à joindre les porte-parole de l'armée. Mais à Ituri, Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, le trafic a repris timidement ce jeudi matin sur la route nationale numéro 27, axe Bounia-Goli, à la frontière avec l'Ouganda voisin. Ce trafic a été suspendu mercredi à la suite des exactions des assaillants de la CODECO. Ces derniers ont barricadé la route au village Gbakalou, dans les territoires de Djougou, où ils ont pris en otage 8 personnes voyageant dans des véhicules de transport en commun. Martial Kizabiamungu.
Il s'agit de 4 véhicules à provenance de Mahagui qui s'est rendu à Bounia sur la RN27 au village Mbakoulou vers 15h30 local. Ils sont tombés sur un groupe d'assaillants de la CODECO qui ont barricadé la route, obligeant les passagers à descendre de leur véhicule avec menace de mort pour les récalcitrants selon les rescapés. 8 parmi eux ont été emportés à brousse et acheminés vers la localité Masikini. Alertés, les FRDC se sont lancés à la poursuite des malfrats pour libérer les personnes kidnappées, mais en vain. Une panique a gagné la région. Plus de 40 véhicules ayant quitté Bounia pour Mahagui et l'Ouganda ont rebroussé chemin et d'autres ont préféré passer la nuit à Djougou Centre. Ce matin, suite à une petite accalmie, certains véhicules ont pris les risques de s'engager sur cette route, mais d'autres sont toujours immobilisés à Djougou Centre. Selon des sources sécuritaires, les ravisseurs exigent 500 000 francs congolais par personne pour leur libération. Les opérateurs économiques craignent déjà que la montée de l'insécurité sur cette route nationale qui relie la RDC à l'Afrique australe n'ait un impact négatif sur le prix de certains produits de première nécessité sur les marchés à Bounia. Martial Kizabiamungu, Bounia. Radio Okapi.
Et puis à propos des ADF, le commandant en chef de l'armée de terre ougandaise, Muhoozi Kainerugaba, qui est également fils du président Yoweri Museveni, a donné les dernières nouvelles des opérations conjointes menées par les armées congolaises et ougandaises sur le sol congolais. D'après lui, le commandement conjoint a effectué des grandes avancées dans la lutte contre les ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Je viens de recevoir des informations ce matin du major général Kayanja que les ADF ont en grande partie fui toutes les zones que nous avons attaquées, à savoir le pont de Semuliki, Kambi Yayua, Beli 1, 2 et 3, Tondoli, Kainama, Boga et Chabi, a-t-il dit dans un message sur son compte Twitter. Autrement dit, en moins de 5 mois, les forces conjointes UPDF et FRDC de l'opération Jusja ont complètement évacué les ADF des bases qu'elles occupaient depuis plus de 22 ans. J'entends que la MONUSCO, la force de l'ONU, nous aide dans l'opération. Nous apprécions leur aide, a-t-il ajouté. Toujours Nord Kivu, l'assistance humanitaire d'urgence est encore retardée dans les territoires de Rutshuru à la suite de l'instabilité sécuritaire. C'est entre autres ce que dit le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Goma. Selon les responsables de cette agence, lors de la première mission d'évaluation début avril dernier, seuls environ 600 ménages de déplacés des récentes attaques des rebelles du M23 avaient reçu une première assistance sur des dizaines de milliers. Bernard Danyangui nous en parle.
Dans un café de presse hier mercredi, le responsable du cluster abri au HCR à Goma indique qu'au moins 1500 ménages seulement avaient pu être recensés par la coordination humanitaire lors de la première évaluation du 5 au 8 avril dernier dans quelques sites de Rutshuru Centre. L'opération devrait se poursuivre quand les conditions sécuritaires pourraient le permettre, dit-il.
On a pu travailler avec les autorités, en synergie avec le PAM, avec OCHA, pour identifier ces personnes et pour apporter les premières assistances. 500 ménages ont reçu des bâches avec tous les autres kits à l'école Épée Rugabo et aux alentours. Et 88 ménages ont reçu quand même des couvertures, des nattes et du savon. Nous nous préparons encore à y retourner en fonction maintenant après les évaluations. C'est déjà un peu calme parce que nous avions annoncé 1500 ménages qu'on pouvait assister.
Signalons que les affrontements de fin mars à début avril entre les FRDC et M23 dans le groupement de Djomba en territoire de Rutshuru avaient mis sur le chemin d'exil une population estimée à plus de 40 000 ménages, notamment du groupement de Djomba, selon la coordination locale de la société civile. Cela sans compter plusieurs autres qui avaient fui vers l'Ouganda. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, des projets d'autonomisation alimentaire de la prison centrale de Beni ont été inaugurés hier, financés par la MONUSCO. Un potager, un moulin à grains et un poulailler doivent permettre d'améliorer les conditions de vie des détenus exposés régulièrement aux problèmes d'alimentation. Les patates douces, le maïs, le manioc, le chou et les autres cultures produites dans le potager vont nourrir désormais les détenus. Suivez ce reportage de Joël Bofengo.
Les résultats de certains projets sont déjà visibles. Selon les responsables de cette maison carcérale, 450 kilos de patates douces sont récemment sortis du potager. Une partie a été partagée avec la prison des femmes et la prison des Lubero. Patience Saï est la responsable de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO. Elle souligne la question du bien-être des détenus, car quoique privés de liberté, ces hommes et ces femmes ont des droits qui doivent être respectés.
Ça rentre dans la perspective de l'humanisation de la prison. Donc là, de l'homme, ça fait partie de notre objectif. Souvent, on a quand même les rapports de décès, de malnutrition et tout ça. Donc ça, c'est aussi pour pouvoir utiliser les détenus à se nourrir, disons.
Le représentant de la ministre de la Justice à cette cérémonie, Ngobila Bokango, a reconnu l'importance de ce genre de projet qui permet aux prisons de pouvoir résoudre la question de l'alimentation des détenus de manière autonome.
Nous devons passer du système de financement des prisons à l'autofinancement des prisons, à l'autoproduction des prisons.
Ces projets, dont le coût global est estimé à 225 000 dollars américains, s'étendent également au territoire des Lubero, où un nouveau quartier pour les femmes a été construite dans la prison. L'établissement pénitentiaire va d'ailleurs être rénové et agrandi. Depuis Bénin, Joël Bofengo pour Radio Okapi.
Dans un autre registre au sud, Kivu, les frais de participation aux examens d'État édition 2022 sont fixés à 47 dollars américains ou l'équivalent en francs congolais. Décision contenue dans un arrêté signé par le gouverneur de province mardi. Ces montants a presque doublé par rapport à l'année dernière. Des voix s'élèvent pour demander que ces frais soient sensiblement réduits. Le point avec Cynthia Bachizi.
Certains députés provinciaux estiment que 47 dollars américains, c'est beaucoup trop, surtout si l'on tient compte de la situation socio-économique actuelle qui se dégrade du jour au lendemain, selon Jacques Kamonda, rapporteur de l'Assemblée provinciale. Mais dans son arrêté, Théo Kasingwabidje, gouverneur de province, dit tenir compte des propositions du comité provincial de l'EPST. Explication de Léon Moussagui, chef de division des services généraux à l'EPST Sud Kivu.
L'année passée, les inspecteurs ont travaillé dans la condition un peu compliquée parce qu'il y a eu beaucoup de manques à gagner. Il y a certains inspecteurs qui n'étaient pas payés. Voilà pourquoi, après la descente du ministre national, pour évaluer la situation, il a été demandé au comité provincial de l'éducation sur Kivu de s'asseoir et d'évaluer l'année passée. Voilà pourquoi le comité provincial a proposé ces montants-là au gouverneur de province.
Précisons que ce comité provincial est constitué de presque toutes les parties prenantes dans le secteur. C'est notamment le PROVED, l'inspecteur principal provincial, les comités des parents, les syndicalistes, les représentants des écoles tant conventionnées que privées agréées. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Rwanda, un gérant des mines chinois a été condamné à 20 ans de prison pour acte de torture. Il a été reconnu coupable d'avoir maltraité deux employés rwandais. Il est soupçonné d'avoir volé des minerais dans la mine où il travaillait.
L'invité.
Le professeur Léon Odimoula est l'invité de ce journal. Il parle des notions des contentieux administratifs. Il est juge au Conseil d'État. Il s'agit de la plus haute juridiction de l'ordre administratif de l'appareil judiciaire congolais et depuis l'éclatement de la Cour suprême des justices. C'est à l'occasion de la campagne des vulgarisations de cette juridiction. Il s'entretient avec Jean-Francis Mouya.
Professeur Léon Odimoula, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juge au Conseil d'État. Aujourd'hui, vous avez intervenu à cette conférence qui est organisée à l'occasion de la campagne de vulgarisation de cette juridiction. Votre intervention a porté sur les notions relatives au droit administratif et au contentieux administratif. Alors, la première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'un contentieux administratif ?
Un contentieux administratif renvoie à un litige né de l'exercice de l'activité administrative.
Comment se règle-t-il?
Ce contentieux peut se régler au niveau de l'administration elle-même ou devant le juge. Donc, il s'agit donc d'un contrôle administratif organisé au sein de l'administration, par exemple par la voie hiérarchique. Il s'agit d'un contrôle interne au sein donc de l'administration. Ce litige peut prendre fin, par exemple à l'amiable aussi, lorsque la victime d'un acte, d'une décision d'une autorité administrative saisit l'autorité qui a pris cette décision. Cette autorité peut aussi revenir sur sa décision, mais la plupart des temps, lorsque l'administration refuse de revenir sur sa décision, le particulier victime, c'est-à-dire l'administration, dispose du droit de saisir le juge par voie de recours en annulation. Et donc, de cette manière-là, le litige prend fin par la voie juridictionnelle.
Et là, il s'agit de quelle juridiction ?
Il s'agit... Il faut dire que c'est en tenant compte de la qualité ou de l'autorité qui a pris l'acte, qui a fait victime et a fait grief. S'il s'agit d'une autorité administrative du pouvoir central, tel le président de la République, le premier ministre, le ministre, par un litige, relève donc de la compétence du Conseil d'État, juridiction administrative suprême.
Pour ce qui est du Conseil d'État, de manière un peu ramassée, quelles autres prérogatives la loi lui reconnaît?
Oui, le Conseil d'État, comme juridiction administrative suprême, connaît plusieurs types de contentieux, dont le contentieux de l'annulation pour excès de pouvoir, lorsqu'une autorité administrative a pris une décision ou un acte au mépris de la loi. Cet acte-là ou cette décision encourt l'annulation devant le Conseil d'État, lorsqu'il s'agit d'une autorité, lorsque la décision est l'œuvre d'une autorité administrative centrale ou des organismes qui relèvent des autorités de l'administration centrale ou qui sont placés sous la tutelle des autorités administratives centrales. En dehors du contentieux de l'annulation, il y a le contentieux de pleine juridiction. À travers ce type de contentieux, les particuliers victimes qu'on appelle administrés peuvent avoir le droit donc de demander non seulement l'annulation de l'acte qui porte atteinte à ses intérêts, mais également les dédommagements ou l'indemnisation ou encore mieux la réparation du préjudice causé du fait de l'acte illégal pris par l'autorité mise en cause.
Pour finir, professeur, les décisions de cette juridiction sont-elles susceptibles de connaître des voies de recours?
Oui, les décisions du Conseil d'État connaissent des voies de recours, lesquelles sont des désordres. Il y a des voies de rétractation et des voies de réformation, mais toutes ces voies de recours sont exercées au niveau du Conseil d'État lui-même, parce que le Conseil d'État, c'est une juridiction administrative suprême. Cela signifie qu'au-delà du Conseil d'État, il n'y a pas une autre juridiction appelée à revenir sur ses propres décisions. Voilà pourquoi, à son sein, il est organisé de voies de recours de réformation et de voies de recours de rétractation.
Professeur Léon Diboula, merci.
Je vous en remercie.
Merci Jean-Francis Mouya et merci à votre invité pour toutes ces explications. Ce journal prend fin. Blaise Chindani l'a coordonné sous la supervision de Martin Sebujangui. Merci de l'avoir suivi.